5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
C'est la rentrée sur RCF Le Puy pour Orion Chemin de l'Espace, une émission mensuelle proposée par le groupe Orion. Chaque mois, l'actualité du ciel et de l'espace avec vous, Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Bonjour Jean-Michel et bonjour à tous. Au sommaire, donc, ce mois-ci, les principaux événements de l'été, donc on va balayer juillet, août, septembre. Quelques échos aussi sur quelques échos des soirées astronomiques à l'Observatoire du BETS proposées par Orion pour le grand public. Et puis, pour terminer, comme chaque mois, quelques conseils de lecture et je crois ce mois-ci de films.
Un petit peu de cinéma.
Alors, pour commencer dans les événements de l'été, c'était le lancement d'une sonde dont on reparlera longtemps, je pense, puisque cette sonde est partie en direction du Soleil avec une mission bien précise, c'est mieux comprendre le fonctionnement de notre étoile.
Tout à fait. Donc il y a déjà des satellites hein, qui tournent autour, de, notamment SOHO, qui est un satellite qui apporte beaucoup de magnifiques photos, donc qui a son rôle de coronographe un petit peu. C'est-à-dire qu'un coronographe, pour expliquer, c'est, on fait une éclipse solaire. Hein, voilà, c'est un instrument qui permet de faire une éclipse solaire et comme ça, on voit tout ce qui passe autour de la
couronne
solaire.
Donc qui cache donc la surface du Soleil
voilà,
et on ne voit que la périphérie.
Voilà,
et il se passe beaucoup de choses.
Il se passe beaucoup de choses. Justement, Parker Solar Probe, cette sonde hein, est partie en direction de notre étoile. Et on peut préciser aussi que c'est la première fois qu'une sonde porte le nom d'un homme qui est toujours en activité, puisque Eugene Parker a 91 ans. Il a vu la sonde qui porte son nom s'envoler pour résoudre les mystères de la couronne solaire.
Donc, on peut penser qu'il a beaucoup travaillé sur ce projet.
Tout à fait, voilà.
C'est son enfant.
Voilà.
Donc, ça, c'est quand même une sonde tout à fait particulière, puisqu'elle est partie donc. Elle est partie.
Elle est partie le 12 août.
Le
12 août. À 3h31 du matin, exactement.
Et ben voilà qui est précis. Et elle arrivera quand ? À proximité du Soleil et jusqu'à quand ?
Alors, d'abord, il faut prendre un petit peu de l'élan, on va dire. On a souvent parti de l'assistance gravitationnelle. Hein. Donc, elle va le faire tour de Vénus hein, pour prendre un petit peu d'élan et pour aller rejoindre notre étoile. Alors, c'est vrai que notre étoile est à 150 millions de kilomètres. Hein. Mm-hmm. C'est l'unité astronomique de base et on va le préciser aussi
voilà.
Hein, pour rappeler quelques notions. Et donc, cette sonde, vers 2020, va commencer ses premières mesures et sera bien opérationnelle en 2020-2024.
Donc, on a vu que dans le programme, elle allait tourner un certain nombre de fois autour du Soleil à une distance respectable, parce que on se rappelle de notre d'Icare qui s'est brûlé les ailes à se rapprocher un peu trop près,
voilà.
La sonde.
Faut pas se brûler. Alors, faut dire qu'il y a un bouclier thermique qui est en carbone, qui est très très épais, avec de l'aluminium, hein, et en sachant qu'aussi les instruments à l'intérieur sont refroidis à moins 273 degrés. Donc, vous voyez, il faut gérer tous ces paramètres de température.
Mmh. Voilà. Donc chaud.
Oui.
Et donc elle va tourner un certain nombre de temps et puis petit à petit elle va se rapprocher.
Les techniciens parlent de 43,6 millions de kilomètres. Donc c'est relativement proche.
Hein. Oui, enfin. C'est quand même aussi assez loin,
mais c'est proche.
Est-ce
hein,
qu'il est prévu qu'elle
chauffe.
Aille plus loin? Est-ce qu'il est prévu qu'elle, par exemple, qu'elle plonge sur le Soleil à un moment ou
pas
un autre,
pour l'instant.
À la fin, évidemment.
Peut-être, oui, à la fin de sa mission. Elle risque de se consumer hein, lorsqu'on se rapproche trop près donc d'une planète. C'est souvent ce qui se passe.
Oui, donc c'est toute une aventure. Et on va voir ça après une petite pause musicale. Jean-Michel, parlons un petit peu du Soleil. Donc, le Soleil, c'est notre étoile.
C'est notre étoile.
C'est quoi une étoile ?
Une étoile, c'est une réaction thermonucléaire, souvent de l'hydrogène qui se transforme en hélium. Alors, il y a des étoiles jeunes, il y a des étoiles qui sont au milieu de leur vie. C'est le cas de notre Soleil, qui a 4,5 milliards d'années et qui finira sa vie dans 4,5 milliards d'années. Et puis il y a des étoiles beaucoup plus vieilles que le Soleil. Et puis ces étoiles dont on parle qui finissent en fin de vie et explosent en supernova, mais bon, il faut qu'elles soient beaucoup plus denses que notre Soleil. Hein. Voilà, il faut à peu près entre 10 et 11 masses solaires pour finir en supernova.
Une étoile, c'est une boule de gaz, d'hydrogène,
voilà.
Et qui est tellement condensée qu'une chaleur...
Réaction thermonucléaire.
Se fait au centre du Soleil, c'est
voilà.
Le cas.
C'est le cas.
Fait quelle température au centre du Soleil?
Alors, il fait des températures des millions de degrés.
Donc environ, on parle de 15 millions de degrés.
15 millions de degrés, voilà. Alors, suivant les sources, vous allez trouver 14, vous allez trouver 15.
Oui, mais enfin, bon,
mais enfin voilà, on a une ordre d'idée.
Donc 15 millions de degrés, l'hydrogène, les atomes d'hydrogène fusionnent en hélium et dégagent de l'énergie.
Ah oui.
Voilà le principe. C'est une étoile moyenne, on peut dire. Parce qu'il y a des étoiles rouges, des étoiles bleues.
Orangées, hein, voilà. Ouais. Donc alors, cette coupe, on va faire une petite coupe du Soleil, si vous voulez, puisqu'il y a ce noyau. Il y a ce qu'on appelle ensuite la zone radiative. C'est là, alors déjà là, ça bouge beaucoup, là, ça chauffe. Hein. La zone convective, c'est la troisième partie du Soleil. La photosphère. Hein. Et puis la chromosphère, donc c'est là où Solar Probe va faire son gros travail. Et puis bien sûr, après, il y a tous les vents solaires qui s'échappent.
Alors, que l'on comprenne bien, au centre, 15 millions de degrés, l'hydrogène fusionne en hélium et on dégage de l'énergie. Cette énergie se diffuse vers la périphérie, perd de la température.
Voilà.
Quelle est la température de la surface du Soleil?
Alors on parle de 6000 degrés.
6000 degrés,
voilà.
C'est donc une étoile, tout ce qui a moyen, quand on observe les étoiles dans l'univers, on a des étoiles beaucoup plus chaudes, on a des étoiles plus froides.
Plus froides.
Le Soleil est au milieu du milieu, on peut dire.
Oui, donc voilà. On fait sur le diagramme Hirschsprung-Russell qu'on étudie beaucoup dans nos réunions d'astronomie, qui nous fait un petit peu la coupe un peu de nos étoiles, hein, un petit peu comment elles se répartissent dans l'univers, on voit que le Soleil est à peu près au milieu de la séquence.
Voilà. Alors, il y a la surface. Enfin, on s'imagine une surface. On peut voir beaucoup de turbulences au télescope, d'ailleurs. Et puis, la surface,
s'échappe.
Il y a une sorte d'atmosphère, je mets ça entre guillemets.
Oui.
Mais autour du Soleil, il y a une couronne.
Oui. Et là, ça réchauffe. Pourquoi? Eh bien là, c'est la mission de Solar Probe.
Donc voilà, l'objectif de cette sonde, c'est effectivement de permettre de mieux comprendre
comment tout cela fonctionne.
Voilà, on connaît déjà le phénomène, mais on ne sait pas trop l'expliquer encore.
Cette petite sonde, avec beaucoup d'appareils, comme on l'a dit, bien protégés, va étudier tout ça, va nous donner des données scientifiques sur la température, sur les gaz, ça va mieux comprendre notre étoile.
On va voir effectivement comment ça va se passer. Bien Jean-Michel, effectivement, comment va faire cette sonde, comment va faire Parker Probe, Solar Probe, pour mieux comprendre cette couronne solaire?
On arrive à proximité du Soleil, on a dit, et tout ça, on ne va pas tourner en rond comme ça, on va se rapprocher, on va s'éloigner. On a même prévu que le 6 novembre, la sonde passerait à 25 millions de kilomètres.
25 millions.
Voilà, hein, 25 millions, mais après elle va s'éloigner de nouveau parce que tout ça, ça permet aussi de tester les instruments. Parce qu'on va voir, en se rapprochant, comment ça chauffe, comment ça refroidit. Et au terme de sa mission, qui est prévue, comme on l'a dit, pour 2024, elle s'approcherait à 6 millions de kilomètres.
6 millions de kilomètres, et peut-être qu'à la fin, elle va être un ultime...
Est-ce que ce jour-là,
voilà.
Elle va se sauver, ou alors est-ce qu'elle va brûler?
Donc, vous qui nous écoutez, vous l'avez compris, on aura l'occasion de parler régulièrement, effectivement, du travail de cette sonde autour du Soleil. Dans les lancements, maintenant un petit peu plus classiques, nous allons le 9 juillet. Il y a c'est du classique,
c'est la routine.
Du ravitaillement de l'ISS, donc voilà. Un cargo russe,
cargo Progress MS-09.
Voilà,
carburant, vivres, dont tout ce qu'il y a pour la maintenance de la station spatiale.
Jean-Michel, tout ne se passe pas très bien à bord de l'ISS aussi pendant cet été.
Alors, 30 août, petite frayeur, puisque pendant le sommeil des astronautes, que ce soit Houston à Moscou, donc à la Cité des Étoiles, s'est aperçu qu'il y avait une légère dépressurisation de la station. Quelques millibars, mais bon, tout cela pour inquiéter un peu les hommes au sol. Et dès le réveil des astronautes, ceux-ci ont commencé une inspection donc de la station. Et dans un Soyouz qui a amarré la station, on s'est aperçu qu'il y avait une petite fuite.
Alors un Soyouz, rappelons quand même pour nos auditeurs que c'est le petit véhicule, enfin c'est le véhicule qui permet de relier la Terre à l'ISS.
Voilà, de monter et de redescendre.
Donc c'est un petit autobus, on va dire, qui est arrimé en permanence à l'ISS. Il y en a d'ailleurs plusieurs.
Il y en a deux. Voilà.
Et donc c'est dans ce Soyouz, dans ce petit véhicule, qu'il y a eu une fuite.
Petite fuite qui a été rapidement colmatée avec des pattes spéciales donc qu'ils ont à bord de la station. Et alors il y a eu beaucoup de questions parce que c'est un trou de 2 mm. Alors il y a certains qui ont dit mais ça a été fait avec une perceuse extérieure. Vous voyez, il y a eu vraiment une polémique.
Un petit homme vert qui est arrivé avec sa perceuse.
Alors on a parlé de débris spatial. Oui. Il y a même des gens qui se sont fait que il y a un mot qui a été annoncé, c'était sabotage. Il a été prononcé par certains astronautes qui ne volent plus aujourd'hui. Donc tout ça, il faut que ça en soit bien clair. Pour l'instant, les agences spatiales, que ce soit la NASA et Roscosmos, ont fait une commission d'enquête qui est à l'étude pour l'instant. Et plus de spéculation, tant qu'on n'a pas les résultats de cette commission d'enquête, on ne parle pas de cette fuite.
Eh bien, on vous tiendra au courant dans les prochaines émissions sur la suite de cette affaire. Petite frayeur à l'ISS, à bord de l'ISS. Le 25 juillet... 4 nouveaux satellites Galileo.
Alors ça, c'est l'Europe spatiale, c'est l'ESA. Donc, 4 nouveaux qui portent à 26. Donc, 26. Aujourd'hui, 26 en orbite, 23 opérationnels.
Et il est prévu une trentaine.
Oui, il est prévu une trentaine. On dit que pour une constellation qui court bien la totalité de la Terre, c'est 24. Mais avec 23, donc Galileo fonctionne.
Très bien.
On peut le recevoir.
Donc Galileo, c'est le GPS européen.
Tout à fait.
Et donc il fonctionne. Et si je prends mon petit téléphone, je peux me servir de Galileo désormais.
Oui, donc vous allez sur...
Comment on fait ?
Alors vous allez sur Play Store, vous téléchargez l'application, elle est gratuite. Alors l'application ou les applications, parce qu'il y en a plusieurs. Tout cela, le Galileo est relié avec le GPS américain. Et donc vous faites votre petite recherche sur Play Store, vous verrez qu'il propose une géolocalisation à 13 cm. Donc c'est vraiment du top.
Ah oui, ça se précise.
À vérifier.
Ça se précise. On rappelle que pour atteindre cette performance, cette précision sur Terre, c'est une vraie prouesse, en particulier pour maîtriser l'altitude.
Tout à fait.
Puisqu'on dépend beaucoup de l'altitude pour mesurer la Terre, en quelque sorte.
Ah oui,
avec une telle précision.
Avec la précision, parce que tous les satellites, de toute façon, ont des altimètres qui réagissent maintenant en millimètres. Donc, alors, quand on parle de ces 23 Galileo, plus une trentaine de GPS américains, dont des GPS américains vont être lancés prochainement, on s'aperçoit que tout ça bien combiné, on peut affiner quand même avec une bonne précision la géolocalisation.
Et puis le 21 août, Jean-Michel, Aeolus.
Aeolus, donc alors là c'est un petit lanceur, le troisième lanceur européen, Vega.
Vega, qui est la petite station dans la gamme des grosses, des moyennes et des petites.
Lanceur moyen, donc qui a lancé Aeolus. C'est une petite sonde qui orbite aux alentours de 600 km, et pour mesurer les vents entre 0 et 30 km d'altitude.
D'accord, alors, dans la haute atmosphère.
Dans la haute atmosphère. Alors, quand on pense avec tout ce qui se passe actuellement, tous ces ouragans, Florence, etc., donc ça va nous donner une précision de mesure de tous ces vents, ces cyclones, pour affiner les précisions météorologiques.
Mieux comprendre le soleil d'un côté, mieux comprendre la Terre de l'autre, avec en particulier cette évolution du climat.
Là, je crois que vous faites bien d'en parler, Gérard, parce que l'évolution du climat, on en parle. Et moi, je dirais aujourd'hui, tous, chacun d'entre nous, mais qu'est-ce qu'on fait ?
Voilà, Jacques Chirac disait, on regarde ailleurs.
Voilà.
Aeolus, cette petite sonde européenne qui va permettre de mieux comprendre aussi les phénomènes dans la haute atmosphère, en particulier les vents. le 19 septembre, c'est très proche de nous, une fusée Longue Marche, les Chinois.
Donc, alors, CZ3B, c'est une fusée chinoise, donc la Chine en est pratiquement plus de 20 lancements, je crois.
Elle en a prévu
année.
35 dans l'année.
Voilà. Donc, le lancement du Peitu. Alors, ça s'écrit B-E-I-D-U. Le Peitu, en japonais, ça veut dire la grande ours. En chinois, pardon.
Ça veut dire
la grande ours.
La grande ours.
Et donc, c'est la constellation des satellites chinois GPS.
Très bien, Peitu. Donc, voilà encore un autre acteur GPS. C'est vraiment la vision de la Terre vue de l'espace, c'est un vrai marché.
Normalement, plus personne ne peut se perdre avec tout ça.
Voilà, même en Chine. Donc voilà, chacun le sien. Il y en a d'autres projets de géolocalisation comme ça de...
Ah ben, il y a le Japon. Oui, c'est, vous voyez, j'avais un petit lapsus en disant Japon et ouais. Chine. Oui, le Japon a ce qu'on appelle le Michibiki, hein, voilà. qui est pas un vrai GPS, mais qui est un système de géolocalisation pour le Japon.
Ça fait du monde quand même.
Ça fait du
tourne,
monde.
Là, bon.
Ah oui.
Peut-être ça finit par faire des petits trous dans les Soyuz de l'ISS, tout ça, non?
Et où est cette question?
Alors, et puis, donc ça c'était les Chinois. Et puis le 19 septembre, alors là, une annonce très médiatisée, on peut dire, hein, c'était la vente du premier billet à un voyageur de l'espace pour aller dans la Lune. Alors qu'est-ce que l'on peut dire sur cette affaire?
Alors, Elon Musk, donc le PDG de SpaceX, qui fabrique aussi les voitures Tesla, hein, je crois qu'on peut
il
le dire.
Il en a même envoyé une.
Ouais, dans l'espace. Hein. Donc, Elon Musk n'est pas sa première annonce sensation. Bon, c'est sûr qu'il faut prendre en compte ses déclarations, parce qu'il a quand même, avec ses fusées Falcon, il a quand même de bons résultats, on va dire, avec la Falcon Heavy, un test bon pour lancer, comme vous l'avez dit, cette voiture Tesla, c'est des tests. Alors on parle d'envoyer un premier homme qui s'appelle Isaku Maezawa, c'est un japonais amateur d'art.
C'est un japonais très riche, parce que c'est un voyage un peu spécial, voilà. Mais très cher.
Elon Musk a dit que lui aussi ferait partie du voyage. Donc, mais nous sommes en 2023 et là on parle de cette énorme fusée d'Elon Musk qui s'appelle la BFR, hein, Big Falcon Rocket. Hein, voilà, c'est ce que ça veut dire VFR. Donc, alors, cette Big Falcon, cette Big Rocket, pour l'instant, elle a été un prototype. On ne l'a pas encore vu voler. Hein. Mais je voudrais dire qu'il ne faut pas aller trop vite parce que c'est les annonces d'Elon Musk qui prévoyait d'aller faire le tour de la Lune. Alors, il a aussi un projet d'envoyer des hommes dans l'espace pour que les Américains ne soient plus dépendants du Soyouz russe. Donc, c'est le Dragon Crew. Hein, avec des astronautes qui devraient partir en 2019.
Oui, parce que...
Premier test fin 2018 et envoie des hommes 2019. Alors, on va commencer par envoyer les astronautes avant d'envoyer
le client.
Voilà. Oui. Je voulais parler du tourisme spatial, hein, donc avec SpaceShip2, avec Blue Origin, hein, qui prévoit d'envoyer des mondes, toutes ces sociétés privées américaines. Donc il y a quand même plus d'une dizaine d'années qu'on est en train de travailler sur ces vaisseaux pour le tourisme spatial. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est dans l'air. Sans jeu de mots.
Oui. Hein.
Et donc, avant de voir un premier touriste partir dans l'espace, on attend un petit peu de voir les astronautes.
Dans l'actualité de l'été, il y a aussi les soirées estivales à l'Observatoire du Bête, proposées chaque semaine par le groupe Orion. Quel bilan, Jean-Michel, on peut tirer?
Beaucoup de monde, hein, pas loin de 2000 personnes, parce que bon, il y a, on va dire presque 1000 rien que pour les deux nuits des étoiles. Mmh. Donc, vous voyez, ça fait énormément de monde. Donc, on s'aperçoit que les gens ont quand même un intérêt pour l'astronomie et le spatial.
Voilà, on l'explique parce qu'il y a une sorte de montée assez générale de cet intérêt pour la nature, pour la nuit, pour les étoiles?
Oui, d'abord la nuit. Hein. Mmh. Puis bon, il faut dire qu'on a eu un été quand même, surtout le mois d'août, exceptionnellement chaud. Mmh. Donc, qui a permis de rester tard le soir pour observer notre ciel étoilé. Donc, ce public en famille, on le voit souvent à l'Observatoire du Bête, à Saint-Juin-Chapteuil, les gens viennent en famille pour partager un moment. Alors, bien sûr, il y a les conférences. Hein. Je crois que ça aussi, dans le programme d'Orion, les gens regardent les conférences, choisissent les conférences qui sont proposées, que ce soit sur la gravité, gravité, que ce soit sur l'espace, sur Saturne, etc., tout ce qui nous entoure.
Sur la transition énergétique, une conférence tout à fait originale qui parlait de la fusion nucléaire, projet de la fusion nucléaire. Alors, qui pourrait se substituer à la fission nucléaire.
À la fission, voilà, tout ça, fusion.
Beaucoup de monde, intérêt pour cette
Oui.
C'était d'ailleurs l'occasion pour Orion de prendre la parole sur ce sujet de la transition énergétique, sans parti pris, du donner à connaissance des avancées de la science dans ce domaine-là.
Exactement, voilà. De faire le point d'état des connaissances. Et puis nous avons à Orion aussi des gens qui sont relativement pointus par rapport à tout ça. Je pense à ITER, tout ça. Donc ces nouveaux générateurs d'énergie.
Voilà. Donc, gros succès quantitatif. On a des retours, effectivement, sur la manière dont les gens vivent ces soirées. Ils réagissent comment? Quels sont les commentaires lorsqu'ils portent...
On peut faire un petit cocorico, hein, parce que, si vous voulez, Orion, on s'aperçoit qu'il y a de la compétence, hein, à travers... nous, on parle de l'espace, mais il y a des gens, on a dit, on parle de la gravité, on va faire de la spectroscopie, on va
faire de l'observation. De la mécanique céleste, comment ça tourne, voilà, les marées, les arcs-en-ciel, calendriers...
Exactement. Voilà. Alors, vous voyez, cette panoplie d'activités, avec des conférences qui sont proposées, d'abord sur ces activités, et puis en plus sur les observations, chaque semaine à l'Observatoire du BETS, vous avez les ateliers, différents ateliers qui sont proposés au public, où les gens, en fonction de ce qu'ils veulent, vont pouvoir choisir dans différents ateliers. Celui qui veut vraiment passer sur la gravité va faire de la gravité, celui qui veut faire du spatial fera faire du spatial, celui qui veut faire de l'observation fera de l'observation. Il y a vraiment un menu très important. Et souvent, il y a des gens qui reviennent parce qu'ils suivent une fois, mais je n'ai pas pu tout voir.
Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent ou qui recommandent en tout cas de venir.
Et on s'en aperçoit qu'il y en a qui viennent, qui reviennent et puis souvent qui adhèrent.
Donc, c'est un bilan très positif que l'on peut tirer à cette heure-là. On rappelle que des soirées grand public existent encore une fois par mois en septembre et en octobre, même qu'au mois d'avril, mai, juin.
Voilà. Alors consultez notre site internet pour avoir les dates.
Voilà, et qu'il y a toujours la possibilité de faire appel à Orion si on est une école, si on est un enseignant ou si on est particulier ou une équipe dédiée pour faire une soirée spéciale sur l'astronomie.
Voilà, donc après on étudie ça avec les responsables du Club Orion et je rappelle simplement le site www.orion43.fr.
Voilà. Et puis, comme chaque mois, on va parler de quelques conseils de lecture. En 2019, nous aurons l'occasion d'en reparler peut-être chaque mois. C'est le cinquantenaire du premier homme qui a marché sur la Lune. Donc, c'est un événement exceptionnel. Beaucoup de livres sont prévus.
Ça commence. Il y en a un qui vient de sortir ce mois de Philippe et Ena Géros. Donc, c'est le rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace qui a écrit un livre. Ils ont marché sur la Lune. Donc, édition Belin. Donc, comment ces 12 marcheurs sont allés sur la Lune? C'est une petite synthèse de cette conquête lunaire. Mais c'est un livre qui vient de sortir. Mais je vous assure que dans les mois qui viennent, dans nos émissions, nous aurons l'occasion de parler d'autres ouvrages, alors plus ou moins techniques, plus ou moins scientifiques sur cette conquête
lunaire. Ou plus ou moins pédagogiques pour les jeunes enfants aussi, certainement.
Mais surtout de revivre, ça s'est passé il y a 50 ans, et bien sûr la question c'est, est-ce que prochainement on va pouvoir y retourner? À défaut d'aller en faire le tour, est-ce qu'on va y mettre le pied?
Voilà, donc ce livre aussi pour ce mois, c'est « Ils ont marché sur la Lune » aux éditions Belin, qui est prévu de sortir ces jours-ci, septembre 2018. Et puis, une fois n'est pas coutume, un film original qui s'appelle « 16 levées de soleil ». C'est un film...
Thomas Pesquet
qui était à la caméra.
Voilà, alors donc le réalisateur, l'équipe de réalisation a prêté une petite caméra Sika à Thomas Pesquet pour aller dans l'espace. Thomas Pesquet a filmé dans l'espace, s'est fait filmer aussi parce que quand il joue du saxophone, et puis il y a eu le départ de Baïkonour, le retour à Baïkonour, et tout ça va nous faire une compilation de 118 minutes donc sur la vie de Thomas Pesquet dans l'espace.
Voilà, ce film
sorti le 3 octobre.
Le 3 octobre
en
et
salle.
On peut penser qu'il sortira il est pas encore c'est pas encore officiel, il est pas programmé, mais il est prévu en tout cas d'être diffusé au Puy-en-Velay.
Voilà.
Hein, avec peut-être un débat à la clé sur
ça reste en question pour l'instant.
C'est un projet Orion également qui Et puis, eh bien, écoutez, il y a aussi les deux émissions. Je veux rappeler que notre émission Chemin de l'espace est une émission mensuelle, mais que chaque semaine, Jean-Michel, vous avez...
Alors, je vous retrouve tous les mercredis à midi 25 exactement sur les ondes de RCF Haute-Loire. Donc, en quelques minutes rapides, on fait le tour du ciel.
C'est-à-dire du ciel de Haute-Loire, du ciel visible.
Qu'est-ce qu'il y a à voir dans le ciel? Donc, en ce moment, on a une grosse lune, donc, mais ça n'empêche pas de regarder le ciel. Et puis, bien sûr, les petites nouvelles des lancements, rapidement, qu'est-ce qui se passe au-dessus de nos têtes.
Bien, et on aura une petite pensée pour tous nos amis élus qui, en Haute-Loire, luttent contre la pollution lumineuse, soit en éteignant, soit en adaptant leur parc d'éclairage public et qui rendent les observations et la nuit de Haute-Loire encore plus belles.
Et oui, pour prendre notre slogan d'Orion, la Haute-Loire, c'est beau aussi la nuit.
C'est beau aussi la nuit. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, orion43.fr. Au mois prochain. Merci Jean-Michel.
Voilà, merci.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.